Bonjour à tous.
Et le pape, faut y aller demander, elle dit, mais dis donc, papy. Qu'est-ce qu'il fout, il, Dieu, pendant tout ce temps-là? Il a dit, Dieu, c'est comme le sucre dans le lait chaud. Il est partout et on ne le voit pas, et plus on le cherche, moins on le trouve.
Bienvenue sur Les Nouveaux Chemins, où de lundi à jeudi, c'est avec deux jeunes philosophes et dans une semaine spéciale sur France Culture que nous tentons de déceler les lendemains des savoirs. Après la désobéissance civile d'Henri David Thoreau aux OGM, après la mémoire infinie de l'étendue numérique et avant l'identité vue par le genre et le postcolonialisme, place aujourd'hui à la question jamais inactuelle de Dieu. Et toute l'équipe des Nouveaux Chemins désobéit actuellement mais infiniment à Dieu. Marianne Chassor, Antoine Ravon, Lucie Tardy, David Pargamin, Denis Ramon, sans oublier bien sûr Adèle Van Rett. Avec à la lecture des textes cette semaine Fabien Wolfrom, à la réalisation l'intempestif Nicolas Berger et à la prise de son aujourd'hui Clément Daté. Dans l'état théologique, l'esprit humain se représente les phénomènes comme produits par l'action directe et continue d'agents surnaturels, dont l'intervention arbitraire explique toutes les anomalies apparentes de l'univers. Dans l'état métaphysique, qui n'est au fond qu'une simple modification générale du premier, les agents surnaturels sont remplacés par des forces abstraites, véritables entités ou abstractions personnifiées inhérentes aux divers êtres du monde. Enfin, dans l'état positif, l'esprit humain, reconnaissant l'impossibilité d'obtenir des notions absolues, renonce à chercher l'origine et la destination de l'univers, pour s'attacher uniquement à découvrir, par l'usage bien combiné du raisonnement et de l'observation, leur loi effective. Quand Auguste Comte distingue ces trois états de l'intelligence humaine, il fait comme si l'un excluait l'autre, comme si d'âge en âge, de progrès en progrès, on perdait le lien avec la théologie et la métaphysique. À observer ce qui nous entoure, force est de nous rendre à l'évidence, nous n'avons pourtant pas renoncé à l'absolu. On entend ainsi parler d'un retour du religieux et la philosophie semble encore avoir de beaux jours devant elle. C'est que si l'on n'explique plus l'univers par des notions absolues, a-t-on pour autant renoncé à expliquer l'absolu? S'il n'est plus raisonnable aujourd'hui d'expliquer notre univers grâce à des êtres surnaturels comme Dieu, est-il malgré tout rationnel d'y croire? Comment la métaphysique peut-elle nous donner des raisons de croire en Dieu? Eh bien, pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir de recevoir deux jeunes philosophes qui travaillent à penser rationnellement et logiquement Dieu et l'expérience mystique. D'un côté, Yann Schmidt, professeur en classe préparatoire, rédacteur en chef de la revue Théorème, spécialiste de philosophie des religions et auteur de L'être de Dieu, ontologie du théisme et de Qu'est-ce qu'un Dieu? Bonjour et bienvenue à vous.
Bonjour, merci.
Et de l'autre, Anthony Feneuil, maître de conférences en théologie à l'Université de Lorraine, fondateur et directeur de publication de la revue Théorème, auteur de Le Serpent d'Aaron sur l'expérience religieuse chez Karl Barth et Henri Bergson, et aussi de Bergson, mystique et philosophie. Bonjour et bienvenue à vous aussi.
Bonjour.
Comment savez-vous que vos apparitions sont hommes ou femmes?
Elles me l'ont révélé, je vois le visage.
Ont-elles des cheveux?
Cela se peut.
Les cheveux sont-ils longs et pendants?
Je ne sais même pas s'il y a des bras et un corps.
Comment parle-t-elle si elles n'ont pas de corps?
Je me rapporte à Dieu. Cette voix est douce et parle le langage de France.
Vos voix ne vous ont-elles point appelées fille de Dieu ou fille de l'Église?
Elles m'ont plusieurs fois appelée Jeanne la Pucelle, fille de Dieu.
Pourquoi vous plutôt qu'une autre?
Il plut à Dieu de faire ainsi par l'intermédiaire d'une simple fille.
En quel vêtement vous êtes apparu Saint-Michel?
De ses vêtements, je ne sais rien.
Était-il nu?
Pensez-vous que Dieu n'ait de quoi le vêtir?
Avait-il des cheveux?
Pourquoi les lui aurait-on coupés?
Comment saviez-vous que c'était Saint-Michel?
Par sa façon de parler et son langage d'ange.
Comment saviez-vous que c'était langage d'ange?
Je l'ai bientôt cru, j'ai eu la volonté de le croire.
La question était d'abord de savoir si les mystiques sont ou non de simples déséquilibrés, si le récit de leurs expériences est ou non de pure fantaisie. Il s'agissait ensuite de savoir si le mysticisme n'est qu'une plus grande ardeur de la foi, forme imaginative que peut prendre dans des âmes passionnées la religion traditionnelle, ou si, tout en s'assimilant le plus qu'il peut de cette religion, tout en lui demandant une confirmation, tout en lui empruntant son langage, il n'avait pas un contenu original, puisé directement à la source même de la religion, indépendant de ce que la religion doit à la tradition, à la théologie, aux églises. Dans le premier cas, il resterait nécessairement à l'écart de la philosophie, car celle-ci laisse de côté la révélation qui a une date, les institutions qui l'ont transmise, la foi qu'il accepte. Elle doit s'en tenir à l'expérience et au raisonnement. Mais dans le second, il suffirait de prendre le mysticisme à l'état pur, dégager des visions, des allégories, des formules théologiques par lesquelles il s'exprime, pour en faire un auxiliaire puissant de la recherche philosophique.
On vient d'entendre interpréter par le comédien Fabian Wolfram un extrait des deux sources de la morale et de la religion. C'est un texte de Bergson qui date de 1932 et telle semble être l'alternative de la philosophie face à l'expérience mystique. Soit on décide que c'est une expérience qui est uniquement vécue par des déséquilibrés, pure fantaisie. C'est le cas, on a l'impression, de Jeanne d'Arc qui n'arrive pas à rendre compte de l'expérience qu'elle a vécue. C'est dans le film de Robert Bresson, Le procès de Jeanne d'Arc. Et ou alors on décide effectivement d'en faire l'auxiliaire de la philosophie à condition de dégager l'expérience mystique de ses conditions sociales, des institutions. Est-ce que c'est une manière d'approcher le problème de la religion par la philosophie, à savoir soit l'écarter, hein, c'est un objet impossible, soit effectivement l'approcher à condition de dégager un certain nombre de choses qui viennent obscurcir son approche. Anthony oui, Fenoy.
Alors effectivement, dans l'extrait qu'on a entendu du film de Bresson, ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, on entend dans la bouche de Jeanne d'Arc toutes sortes de choses qui semblent absurdes, folkloriques, qui ont d'ailleurs donné lieu ensuite à des reprises elles-mêmes aussi folkloriques jusqu'à aujourd'hui, hein, autour de Jeanne d'Arc. Et la question que pose Bergson dans ce texte, c'est de savoir si au-delà de tout ce folklore, il y a quand même quelque chose, un noyau d'expérience, que le philosophe pourrait aller chercher, auquel il pourrait être attentif, pour essayer d'enrichir son discours d'autre chose que ce qu'il a lui-même à dire. Et c'est ça la question que la mystique, pour Bergson, pose à la philosophie, c'est de savoir si la philosophie est condamnée à être toujours seule avec elle-même, ou s'il y a certains types de discours qui sont tellement étrangers, a priori, à ce qu'elle est, qui nous sont tellement étrangers, a priori, qu'en les écoutant et en allant au-delà peut-être de la première impression d'absurdité, on peut ensuite dégager un espèce de noyau, encore une fois, d'expérience auquel se tenir.
Alors comment écarter cette dimension absurde? Parce que finalement, l'expérience mystique, elle réside uniquement dans le fait qu'on puisse en rendre compte peut-être que par l'absurde, parce qu'elle est incommunicable, parce qu'elle est purement singulière. Et d'ailleurs, à ce titre-là, il faudrait peut-être distinguer l'expérience mystique, qui est peut-être très singulière et extraordinaire, de l'expérience de la foi ou de la croyance, qui là, touche peut-être un nombre plus grand de personnes. Alors, Anthony Fenoy, toujours.
Effectivement, c'est ça sans doute le problème majeur. Il faudrait d'ailleurs distinguer entre la question de l'incommunicabilité de l'expérience mystique, qui est pas la question de l'incommunicabilité de l'expérience. Au fond, elle n'est pas très intéressante parce que elle vaut pour toute expérience. Hein. N'importe quelle expérience est incommunicable au fond. Donc le travail du philosophe, c'est justement d'essayer de trouver des concepts pour rendre communicable ce qui ne l'est pas a priori. Maintenant, l'autre question est beaucoup plus difficile, à savoir, est-ce que le philosophe, en essayant de dégager ce qu'il y a d'essentiel à l'expérience mystique, ne va pas nécessairement la dénaturer? Et c'est probablement d'ailleurs, c'est ce qui a été reproché tout de suite à Bergson, hein, quand en 1932 il a ouvert sa philosophie à ce nouveau type d'expérience, qui est l'expérience religieuse, en particulier l'expérience mystique. Ce qu'on lui a reproché, à savoir, dans ce travail d'épuration qu'il voulait faire de l'expérience mystique, est-ce qu'il n'allait pas, au fond, retirer l'essentiel et puis mettre ce qu'il avait envie d'y mettre. Et effectivement, c'est un problème qui se pose. C'est pour ça d'ailleurs que dans ce texte de Bergson, il faut sans doute ne pas le prendre, on n'est pas obligé en tout cas de le prendre comme un bloc. Et quand Bergson fait des distinctions nettes entre d'un côté l'expérience mystique et puis de l'autre, à la fois ce qu'il appelle ailleurs dans les deux sources les religions statiques, c'est-à-dire au fond tout le folklore, hein, je disais, dont elle s'entoure, et puis de l'autre côté les formules théologiques, c'est-à-dire au fond ce qui pour lui est un attirail intellectuel extérieur à l'expérience.
C'est quoi les formules théologiques? C'est par exemple les écritures?
Alors les formules théologiques pour Bergson, c'est par exemple l'idée que Dieu soit trinité, l'idée que Dieu soit tout-puissant et parfait. Ça, pour Bergson, ce serait une formule théologique. C'est la formulation intellectuelle, c'est justement une manière de conceptualiser l'expérience mystique, mais qui pour Bergson est trop extérieure à cette expérience pour nous en dire quoi que ce soit. Et le philosophe, pour retirer, selon Bergson, ce qu'il peut retirer de l'expérience mystique, il doit faire un premier travail d'épuration. Et il doit, au fond, retirer de la bouche du mystique tous les concepts théologiques que le mystique emprunte à une tradition dans laquelle il s'inscrit et qu'il utilise pour parler de ce qu'il a vécu. Mais ça, évidemment, il me semble que c'est un geste vraiment problématique parce que, évidemment, il faut un critère pour distinguer entre ce qui est réellement de l'ordre de l'expérience mystique et ce qui est uniquement de l'ordre de la construction intellectuelle. Et on pourrait discuter la question de savoir si dans ces constructions intellectuelles elles-mêmes, dans ces traditions elles-mêmes, il n'y a pas aussi un noyau d'expérience qui est transmis d'une manière ou d'une autre, et que peut-être le travail du philosophe, s'il veut s'ouvrir à une expérience qui n'est pas d'abord la sienne, mais qui est celle qu'il reçoit, qu'il a à écouter, eh ben, il ne doit pas seulement essayer d'épurer ce que raconte le mystique pour trouver au-delà de ce qu'il a à dire, de ce qu'il dit, quelque chose qui serait plus essentiel, mais aussi à l'intérieur de son discours lui-même, en écoutant aussi la manière dont il parle, c'est-à-dire à la fois les formules théologiques comme dit Bergson, puis aussi le folklore, y compris dans le folklore, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose pour le philosophe à aller tirer, à écouter, et quelque chose qui pourrait lui permettre d'augmenter sa connaissance, parce que c'est ça quand même l'objectif de Bergson, hein, augmenter la connaissance à partir d'un nouveau type d'expérience.
Yann Schmitt ?
Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'on sent bien qu'il y a deux niveaux. Il y a un niveau d'expérience religieuse assez général et très divers. Alors, folklorique ou pas, mais il y a une grande diversité. Et puis après, ce qui va intéresser un philosophe, souvent, c'est pas forcément de se laisser emporter par la diversité et les particularités, mais c'est essayer de trouver quelque chose d'un peu universel ou quelque chose qui indique un intérêt pour tout le monde. Alors, c'est vrai que les mystiques ayant épuré l'expérience religieuse, lui ayant donné une forme très... on va dire très abstraite, finalement, même s'il y a tout un vocabulaire poétique, sensuel, etc., qui en parle, ça semble plus intéressant pour un philosophe que toutes ces particularités et ces contingences. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas évident qu'on ait une expérience mystique, justement. On en a aussi une diversité. Moi, ce qui m'intéresse quand je fais la philosophie de la religion, c'est à chaque fois d'introduire le problème de la pluralité, de la diversité, et de me dire, est-ce que je suis face à quelque chose de totalement contingent? C'est-à-dire, si je suis bouddhiste, mon expérience mystique, elle va prendre une certaine forme. Mais si j'étais musulman au XIIIe siècle, en Perse, ou je sais où, est-ce que ça serait vraiment ressemblant? Ça a beau être mystique, est-ce que c'est vraiment ressemblant? C'est vrai que je me suis mis à distance, en quelque sorte, du folklore, des particularités, etc. Mais est-ce que j'ai pas une deuxième particularité qui arrive, peut-être un peu moins visible au départ? Et moi, j'ai l'impression que quand je fais de la philo à propos de ça, je me sens obligé de tenir compte de cette diversité parce que ça pose problème. Si je m'inscris dans une perspective particulière au sens de la vie du croyant qui ne réfléchirait pas, si tant est que les croyants ne réfléchissent pas, il ne faut pas exagérer, évidemment, je sens bien que il y a une contingence, je suis né en France, j'aurais pu naître ailleurs à telle époque. Deuxième contingence, j'ai beau épurer, j'ai beau essayer d'universaliser, j'ai beau essayer de retrouver le contact avec l'absolu qui serait censé être le même pour tous. Finalement, là aussi, il y a de la contingence. Et cette contingence, est-ce que je vois une forme d'irrationalité? C'est-à-dire, si j'étais né ailleurs, je penserais autrement, mais je serais persuadé d'avoir la vérité. Ou est-ce que cette contingence, elle est finalement utile? Parce que des fois, ça nous arrive de manière contingente. Là, je suis placé d'une certaine manière et je vois des choses que vous ne pouvez pas voir. C'est contingent, mais c'est quand même très pratique. Et je suis très rationnel quand je vous dis, ah, regardez, il pleut dehors, vous ne le voyez pas, mais moi je le vois. Donc, il y a plein de formes de contingence, et à chaque fois, je me demande, cette contingence, c'est de l'arbitraire, c'est de l'irrationnel, ou finalement, est-ce que, bon, ce n'est pas complètement absurde, il y a plusieurs perspectives, mais ce n'est pas grave, on a le droit d'avoir plusieurs perspectives.
Finalement, l'expérience mystique, ou peut-être de la croyance, de la foi, nous met face à ce problème par excellence philosophique, qui est celui de la contingence, de l'expérience singulière, du moment où on la vit, de qui on est, dans quel contexte, mais néanmoins, dans cette expérience mystique qui n'est qui a la différence par exemple d'une autre expérience qui est celle de la durée de laquelle Bergson a beaucoup parlé, l'expérience mystique, ce qui est en jeu, c'est peut-être je ne fais pas l'expérience de ma durée, de ma liberté, je fais l'expérience de Dieu, donc d'un objet qui déjà lui-même pose problème. Donc comment on va une fois peut-être qu'on a mis de côté ce problème de contingence, si tant est qu'on puisse le mettre de côté, comment on va approcher Dieu ? Quel est cet objet particulier philosophique qui est Dieu ? Anthony Fenaille ?
Alors, peut-être je laisserai répondre Yann sur la question plus précise, mais simplement pour revenir une dernière fois sur cette question de la contingence, je pense effectivement que la foi, en tout cas, c'est précisément la conscience, c'est pas d'abord la certitude, contrairement à ce qu'on a l'habitude de penser, mais c'est précisément la conscience qu'on est inscrit dans une, ce que vous avez appelé une contingence, dans une situation historique donnée. Et reconnaître la foi, c'est finalement admettre cette contingence et commencer à penser à partir de là. Ça ne veut pas dire renoncer en quoi que ce soit à la rationalité, mais ça veut dire, et c'est exactement ce que fait Bergson en un sens en disant que le philosophe, quand il rencontre la mystique, il doit arrêter, comme vous avez dit, de simplement approfondir sa propre expérience, mais il doit se mettre à l'écoute de l'expérience de quelqu'un d'autre. Ça veut dire qu'effectivement, à un moment, la philosophie, quand elle est confrontée à la foi, à quelque chose comme Dieu, elle renonce à être, en un sens, autofondatrice. Et c'est peut-être ça que, c'est une des choses, en tout cas, que la théologie ou la foi peut apprendre à la philosophie. C'est c'est pas nécessairement une modestie, parce qu'au final, la philosophie peut reprendre ses droits et l'entièreté de ses droits, mais c'est peut-être la capacité à reconnaître qu'elle n'est jamais un point de départ, la philosophie. Et peut-être qu'il n'y a pas d'autre objet que Dieu pour lui faire prendre conscience de ça.
De quoi ? De sa modestie, de son humilité ? Parce que justement, Dieu serait un objet qui dépasse tout et qui serait un problème, le problème de la philosophie, Yann Schmitt ?
Ce que dit Anthony, c'est, je crois qu'on peut moi je le comprends un peu autrement, c'est-à-dire que il a raison d'insister sur le fait que c'est pas parce qu'on arrive avec une étiquette de philosophe qu'il faut dire c'est particulier, c'est contingent, donc c'est absurde. Moi, je pense l'universel.
Pas de position surplombante.
Voilà. Le problème, c'est que en fait, on peut la reconquérir un peu cette position surplombante parce que j'ai l'impression, en tout cas, c'est ce que j'essaye de défendre, c'est qu'on n'a pas trop le choix parce que il faut pas mépriser le particulier, le contingent, et pas se croire tout de suite en position d'énoncer l'universel. Enfin, c'est le fantasme du philosophe qu'on appelle classique, mais bon, est-ce que ça a vraiment existé ? Mais le problème, c'est que quand on a conscience de la pluralité, ça provoque tout de suite un effet de scepticisme. On se dit, oh là là, ça, j'ai vraiment adopté une posture croyante ou athée, ou etc., simplement parce que mes parents étaient communistes, cathos, musulmans, etc. Et là, le geste philosophique, il existe déjà d'ailleurs dans la vie courante. Quand les gens discutent, quand les gens réfléchissent à leur situation, ça, alors, ils se disent, ils ne le théorisent pas comme on essaye de le faire, mais ils se disent bien que quand même il y a quelque chose de contingent, que peut-être ils auraient pu penser autrement. Et j'ai l'impression qu'en philosophie, on peut prolonger ça, c'est-à-dire pas arriver en disant, écoutez, je suis le philosophe rationaliste, je vais vous expliquer la vie, vos contingences ne m'intéressent pas, mais arriver en disant, mais moi aussi, j'ai vécu cette expérience de relativisation ou de scepticisme, et j'ai l'impression que, pour prendre une expression un peu technique, c'est ma situation épistémique, c'est-à-dire c'est à partir de là que je vais vous donner éventuellement des raisons de croire, de pas croire, d'évaluer, etc. Et c'est là où on arrive à se dire, il me faut un concept de Dieu à peu près clair, parce que je vais en avoir besoin pour travailler. Alors c'est vrai que je mets à distance les croyances religieuses particulières, et les théologies qui ont formalisé tout ça. Mais j'ai l'impression que j'ai pas trop le choix. Maintenant, j'ai conscience de la diversité. Et je bosse à, je au sens Yann Schmitt, je bosse et d'autres, à essayer de fournir ce genre de choses. Qu'est-ce que c'est qu'un concept ? Et après, on verra si ça existe. Mais déjà, de quels outils conceptuels on va avoir besoin pour penser un Dieu. Et ça, c'est le rôle de la métaphysique. Auguste Comte nous dit que la métaphysique est dépassée, mais enfin, sa métaphysique, elle est naturaliste, elle est implicite, mais c'est pas parce qu'elle est implicite qu'elle est pas là. Donc, naturalisme, métaphysique avec un Dieu, ben voilà, on commence à confronter, on cherche quels outils on utilise. Ça, c'est une partie du travail.
Alors vous procédez de cette manière-là, Jan Schmitt, vous travaillez plutôt sur la philosophie analytique,
exclusivement, mais oui.
Anthony Fenoy, vous avez une approche plus continentale de ce problème entre philosophie et religion. Pourquoi vous travaillez sur Bergson. Donc du coup, est-ce qu'il va y avoir deux méthodes d'approche de ce problème, d'approche de Dieu, en fonction de ces deux traditions en fait de pensée, Anthony Fenoy?
Je sais pas, sans doute pas aussi nettement que vous le dites. Maintenant, c'est plutôt une question de sensibilité, probablement. C'est vrai que je suis absolument d'accord que le travail philosophique, c'est un travail qui va vers l'universel. Mais c'est vrai que la question, la manière dont moi j'envisage ce problème, la manière dont, c'est-à-dire dans la suite de Bergson, hein, avec l'idée que, alors voilà, Bergson déjà, il est au croisement de deux traditions, en fait, hein. Il est à la fois de formation anglaise et positiviste, et puis en même temps, évidemment, il a une importance majeure pour la philosophie continentale ensuite. Mais je pense que cette question de la particularité théologique, évidemment, la philosophie, elle a tendance, et par nature et par nécessité, elle a tendance à la dissoudre. Et au fond, le rôle de la philosophie, c'est d'aller à l'universel. Moi, ma question, c'est... peut-être qu'il y a dans cette contingence théologique quelque chose de précieux et quelque chose que la philosophie aurait intérêt à faire vivre, y compris à l'intérieur de ces concepts qu'elle universalise nécessairement. Et du coup, moi, ma méthode, ce serait plutôt non pas de chercher à partir des concepts théologiques à m'élever à un concept universel de Dieu, mais plutôt à travers les concepts théologiques d'une tradition donnée, essayer de comprendre ce que ces concepts peuvent nous apprendre, par exemple la manière chrétienne de parler de Dieu peut avoir des résonances sur des concepts philosophiques plus généraux. Comment est-ce que la théologie peut transformer nos concepts philosophiques, et non pas comment est-ce que la philosophie peut, à partir de la théologie, se retrouver elle-même. Le chemin inverse. C'est aussi pour ça, c'est aussi le sens de la revue qu'on a fondée tous les deux.
La revue Théorème.
Essayer de voir dans les traditions religieuses concrètes, particulières, ce qui, non pas seulement essayer de les décrire, c'est déjà important, c'est déjà quelque chose, mais essayer à partir de cette description de voir comment est-ce que nos concepts philosophiques qu'on considère toujours universels, notre philosophie de la connaissance même peut être transformée par ces expériences singulières, ces modes de connaissance singuliers que sont les modes de connaissance théologiques et religieux.
Jan Schmitt ?
Oui, effectivement, Théorème, c'est un bon exemple de bonne pratique, comme on dit maintenant, parce que on n'est pas d'accord avec Anthony sur un certain nombre de méthodes ou d'auteurs de référence. On n'a pas les mêmes. Mais justement, la revue vit de ça, parce qu'on est capable de s'intéresser à beaucoup de choses sérieusement. Parce qu'il y a de la diversité. Notamment, en plus, on essaye en tout cas d'être ouvert aux questions historiques, aux questions de sciences sociales, et pas seulement à une philosophie effectivement de surplomb, comme il l'expliquait. Après, l'importance, la différence de démarche, notamment pour parler de la singularité de la démarche des philosophes analytiques, quand ils pensent la question de Dieu, c'est vrai qu'ils commencent par le problème métaphysique, c'est-à-dire de donner des concepts, parce que il va falloir discuter avec des gens qui sont pas d'accord, très clairement. Alors que je crois que la démarche que propose Anthony est qui complémentaire, c'est évident, après il va y avoir des tensions, c'est plutôt de s'enfouir dans des textes et des traditions et des héritages, ou des choses en cours, pour en extraire quelque chose, pour voir si ça oblige pas à transformer d'autres héritages et d'autres traditions. Alors que c'est vrai que nous, c'est vraiment, en philo-analytique, on pose des concepts, on pèse le pour et le contre. Ça veut pas dire qu'on est ignorant, la caricature habituelle, de l'histoire et des sciences sociales, ça serait idiot de dire ça, mais on s'en nourrit, et ça se voit pas forcément immédiatement, parce qu'on essaye d'avoir quelque chose de très public et commun, de ne pas s'enfouir pour extraire du sens ou du changement dans une tradition.
Kar virid ye na da da ki kar virid ye na da da ki jannat lehde han kharid Allah Muhammad char yaar haji khaja kutub farid kar kar virid ye na da da ki kar kar virid ye na da da ki jannat lehde han kharid Allah
Il est 10h26, vous écoutez France Culture, c'est une semaine spéciale Demain les Savoirs, en partenariat avec la Nuit Science et Lettres organisée par l'ENS qui aura lieu ce vendredi 3 juin. Semaine spéciale donc aussi dans les nouveaux chemins de la connaissance où nous recevons toute cette semaine deux jeunes philosophes et aujourd'hui deux invités pour parler de la religion, de l'expérience mystique par la philosophie. Anthony Feneuil, maître de conférence en théologie à l'Université de Lorraine, fondateur et directeur de publication de la revue Théorème, auteur du Serpent d'Aaron sur l'expérience religieuse chez Karl Barth et Henri Bergson, disponible aux éditions L'Âge d'Homme et de Bergson, Mystique et Philosophie au PUF. Et puis Yann Schmin, professeur en classe préparatoire, rédacteur en chef de la revue Théorème, spécialiste de la philosophie des religions, auteur de Lettres de Dieu, ontologie du théisme, disponible chez Itac, et de Qu'est-ce qu'un Dieu, disponible chez Vrin.
Bess McNeil, pendant des années, tu as appelé l'amour de tes prières. Dois-je te le reprendre après te l'avoir donné? C'est ce que tu veux peut-être?
Grâce de me l'avoir donné.
Alors, qu'est-ce que tu veux aujourd'hui?
Je prie pour que Yann rentre de la plateforme.
Ah, attention, ça va péter!
Parlez-vous!
C'est au sujet de Yann. Il a été blessé dans un accident de forage.
Père, vous êtes toujours là?
Bien sûr, tu le sais, Bess, je suis toujours là.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Tu as demandé que Yann revienne.
Finalement, je ne veux plus. Pourquoi est-ce que j'ai demandé ça?
Parce que tu n'es qu'une petite idiote, Bess.
Pourquoi Dieu serait-il caché de nous? Il est sûr qu'un être parfait moralement, c'est-à-dire bon, juste, aimant, se manifesterait plus clairement. Ainsi, la faiblesse des indices pour l'existence de Dieu n'est pas un signe que Dieu est caché. C'est une révélation que Dieu n'existe pas. Un Dieu parfaitement aimant désirerait toujours une relation personnelle réciproque entre lui et chaque être humain qui serait capable d'une telle relation. Mais une condition logiquement nécessaire pour une telle relation réciproque entre Dieu et les humains est la croyance humaine en l'existence de Dieu. Ainsi, un Dieu parfaitement aimant aurait une raison de s'assurer que chacun, à condition qu'il soit capable d'une telle croyance, ou au moins qu'il ne soit pas disposé à résister à cette relation, est en possession des indices suffisants pour qu'une telle croyance en Dieu soit formée. Mais les indices actuellement disponibles ne sont pas de cette sorte. L'indication la plus évidente qu'il n'en est pas ainsi est que l'incroyance non coupable, ou comme je préfère le dire, l'incroyance raisonnable, a effectivement lieu. Par conséquent, à partir de la faiblesse des indices en faveur du théisme, et plus spécialement à partir du caractère raisonnable de l'incroyance, nous pouvons conclure qu'il n'existe pas de Dieu parfaitement aimant. Mais Dieu, s'il existait, serait parfaitement aimant. Par conséquent, à partir du caractère raisonnable de l'incroyance, nous pouvons conclure qu'il n'existe pas de Dieu.
Mon père, Qu'est-ce qui se passe? Père, où êtes-vous?
Père, où êtes-vous? C'est la voix du personnage de Bess dans Breaking the Wave, le film de Lars von Trier qui date de 1996. Donc on entend Bess, ce personnage qui prie Dieu parce que son mari est paralysé, qui prie Dieu pour se racheter. Elle se sent coupable de que son mari soit paralysé, mais Dieu ne lui envoie aucun signe. Et effectivement, comme le dit John Schellenberg dans le texte qu'on a entendu interprété par Fabian Wolfram, il y a cet argument du Dieu caché et il fait une démonstration, ce philosophe canadien, donc John Schellenberg, et il parvient à cette conclusion. Par conséquent, à partir du caractère raisonnable de l'incroyance, nous pouvons conclure qu'il n'existe pas de Dieu. Alors, est-ce qu'il est déjà envisageable de démontrer rationnellement l'existence ou l'inexistence de Dieu, Jan Schmitt?
Alors, effectivement, une fois qu'on a les concepts à peu près clairs pour commencer à discuter entre athées, sceptiques, croyants, etc., la question qui se pose, c'est ce dont on parle. Donc disons Dieu, les religions parlent des fois d'entités qui ne sont pas des dieux, mais simplifions. Est-ce que ce dont on parle, Dieu, existe ou non? Alors, dit comme ça, ça paraît un peu mettre les pieds dans le plat, mais après tout, je considère que c'est le travail des philosophes d'essayer. Et évidemment, il faut être très précautionneux, on va aller vite là. Est-ce qu'il existe ou pas? C'est la question. Alors, non pas de démontrer. On va dire que démontrer, c'est plutôt pour les maths. On peut démontrer que 2 plus 2 égale 4. On pose des axiomes et on déduit. Démontrer, c'est sûrement trop fort. Il y a eu cette tentation dans la tradition métaphysique de démontrer Dieu ou de démontrer son inexistence, parfois. Mais on va dire plutôt, essayons de peser les raisons pour et contre. Essayons de faire pencher la balance dans un sens ou dans un autre. Et alors, ce qui est intéressant dans le texte de Schellenberg, c'est qu'il apparaît, en fait, Schellenberg sort cet argument en 1993, le publie en tout cas en 1993, et c'est un argument qu'on trouve pas trop dans la tradition. Donc la tradition est pleine d'arguments pour l'existence de Dieu, qui sont réactivés, travaillés par les philosophes contemporains, notamment de tradition analytique. Vous avez aussi toutes sortes d'arguments contre, qui sont travaillés depuis longtemps et qui sont retravaillés. Et puis, il y a ce nouvel argument qui apparaît par quelqu'un qui a été formé à la philosophie analytique à Oxford, vraiment le pur jus, et qui explique une chose relativement simple, c'est que s'il y a un Dieu, en général, on dit qu'il est parfait. Ça sert de régulation. Faut pas dire n'importe quoi parce que cet être est parfait. Et puis, on fait attention à ce qu'on dit à partir de ça. Mais souvent, si on en croit les traditions religieuses, cet être est aimant. En tout cas, il a créé l'univers ou il est présent dans l'univers. Il a un lien avec les êtres humains qui n'est pas un lien d'utilisation comme des marionnettes ou de violence, mais il y a un lien d'amour parfait. Et Schellenberg dit, mais qu'est-ce que ça veut dire que d'attribuer quelque chose comme de l'amour parfait à cet être? Ça veut dire que cet être devrait, visiblement, si on comprend bien ce que c'est qu'aimer, se tenir prêt à des relations de type personnel. Alors, il faut pas non plus, c'est pas un gros barbu qui va sortir des nuages pour nous parler, mais quelque chose qui ressemble à une relation personnelle. Et cette relation, donc, doit être disponible à des gens honnêtes, sincères, qui cherchent, qui se questionnent. Ça doit pas être refusé. Parce que si j'aime quelqu'un et que la personne mérite en face de moi d'avoir une relation personnelle avec moi, si je me casse, c'est que je l'aime pas ou que je suis pervers ou que j'ai un souci mais ou je m'amuse. Mais justement, idéal régulateur, un dieu, ça ne fait pas ce genre de choses. C'est censé être parfait. Et alors, Schellenberg dit, mais il y a des gens qui très très sincèrement ont une recherche religieuse, très sincèrement consulter des amis, des gens qui ont la foi ou qui ont une croyance religieuse. Ils ont essayé aussi de s'inscrire là-dedans. On peut pas leur reprocher d'être des gens malhonnêtes ou pervers plus que la moyenne, donc Dieu n'a pas de raison de les mépriser. Or, il se trouve que donc ces gens qui sont bien disposés, et on en connaît tous, et il y a quelque chose dans cet argument qui est, dans sa formulation technique et très formelle, il y a quelque chose de très existentiel, en fait. C'est ça aussi qui le rend intéressant, de très profond. Ces personnes donc qui cherchent la relation personnelle ne la trouvent pas. Et c'est ce qu'il appelle l'incroyance raisonnable. Ils ont fait tous les efforts. Ils sont honnêtes et ils ne trouvent rien. Ils ne croient pas. Eh bien, Schellenberg dit, c'est pas parce que Dieu est caché c'est parce que Dieu n'existe pas. Alors ça, c'est un argument très fort, très discuté, qui entre en contradiction ou dans la balance avec les raisons traditionnelles réécrites de penser qu'il y a un créateur, que s'il y a un ordre avec des lois dans la nature, il y a etc. Donc là, on a un débat typique entre l'athéisme et ce qu'on appelle le théisme, les défenseurs de l'existence de Dieu. Donc on est passé de métaphysique, les concepts, à quelque chose, est-ce que ça existe ou pas ?
Voilà. Donc on est passé à quelque chose de raisonnable, à savoir de l'ordre de la croyance, est-ce qu'il est raisonnable ou pas de croire, à quelque chose de rationnel, en fait, de rationnellement démontrer ou
Justement, c'est pas démontrer, il faut pas exagérer. L'argument de Schellenberg, dans sa forme logique, il est déductif, comme on dit, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'assez fort. On part de principes que, normalement, tout le monde devrait admettre comme vrai, et Schellenberg passe beaucoup de temps à expliquer ça, et après on enchaîne logiquement. Mais ça reste un argument philosophique, c'est-à-dire que ça peut pas être contraignant au sens où si je vous démontrais que 2 plus 2 égale 4 et vous pensez toujours que ça fait 5, en exagérant pour aller vite, c'est plus mon problème mais c'est celui d'un psychiatre. Alors là, on n'est pas dans ce cas-là. C'est pas parce que quelqu'un n'est pas d'accord avec l'argument de Schellenberg qu'il est irrationnel. C'est on pèse le pour et le contre. Et peser le pour et le contre, c'est jamais trancher aussi clairement.
Anthony Fenoy.
Oui, alors là, derrière cette question, il y a sans doute une vraie différence d'approche, qui n'est même pas une différence de méthode, puisque c'est une différence qui touche à la question de la nature de la rationalité, en particulier la question de savoir si on sait déjà ce que ça veut dire que... si on sait déjà tout ce que peut la raison, et si on sait déjà ce que ça veut dire exactement qu'être rationnel. Parce que derrière le texte qu'on a entendu, il y a l'idée qu'on peut au fond discuter de l'existence de Dieu comme on discute de l'existence de n'importe quel objet. Hein, ou des exoplanètes, ou ce genre d'objets de l'expérience habituelle ou scientifique. Mais on pourrait aussi partir du principe qu'on ne doit pas présupposer ce que ça veut dire pour Dieu qu'exister, et quel type d'objet est Dieu, et quel type de rationalité doit s'appliquer à Dieu. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est à l'inverse. En regardant les traditions discursives qui parlent de Dieu, en particulier la théologie, voir s'il n'y a pas des manières, si à l'intérieur de ces traditions, il n'y a pas des manières de parler de Dieu qui invalident par avance de telles discussions. Et là, je pense par exemple à l'argument très célèbre, puisqu'il date du XIe siècle et qui n'a cessé d'être discuté depuis, qui est la fameuse preuve anselmienne de l'existence de Dieu, la preuve de saint Anselme, hein, Anselme de Canterbury.
Et cette preuve, c'est, vous pouvez...
Alors, cette preuve, si je la résume en 3 mots, je peux le faire, mais elle est en même temps infinie ensuite. Hein. C'est la preuve, c'est de dire que Dieu étant un être tel que rien de plus grand ne peut être pensé, si on pense Dieu comme non-existant, alors on pense Dieu comme n'étant pas l'être tel que rien de plus grand ne peut être pensé. Pourquoi ? Parce que si on le pensait comme existant, on le penserait plus grand que comme non-existant. Donc si Dieu est un être tel que rien de plus grand ne peut être pensé, alors il ne peut être pensé que existant. Il ne peut pas en tout cas être pensé non existant.
Il doit comprendre en lui en fait toutes les propriétés existantes ?
Il n'y a même pas besoin d'aller jusque-là, c'est simplement il suffit de comparer deux idées, l'idée de Dieu qui existe et l'idée de Dieu qui n'existe pas. Dieu qui n'existe pas est une idée plus petite, s'il n'existe pas...
Mais c'est même
Dieu
simplement
plus petit,
logique
voilà,
en fait.
Voilà, c'est simplement logique. Dieu ne peut pas être pensé. S'il est défini comme un être tel que rien de plus grand ne peut être pensé, il ne peut pas être pensé comme n'existant pas. Mais qu'est-ce qu'elle veut dire, cette preuve ? Alors, on l'a interprétée de diverses manières, évidemment, mais une manière qui me semble vraiment intéressante, qui est d'ailleurs celle de Karl Barth au XXe siècle, hein, de l'interpréter, c'est de dire qu'au fond, Anselme, dans cette preuve, ne parle pas de l'existence de Dieu. Il n'est pas en train de démontrer l'existence de Dieu comme on démontrerait l'existence, encore une fois, d'une exoplanète, de cette table, votre existence ou n'importe quelle autre. Il est en train de dire que nous, cette preuve, elle porte sur nous, sur ce que nous pouvons penser. Et il est en train de dire que l'existence de Dieu, c'est quelque chose qui ne peut pas se discuter. C'est-à-dire que Dieu est un être tel qu'un débat sur son existence ne peut pas avoir de sens. C'est pour ça que Anselme appelle les autres, les athées, il les appelle des insensés. C'est pas parce qu'ils pensent qu'ils sont moins intelligents que nous. Je me mets dans la peau d'Anselme. Mais c'est parce que les deux choses, le fait même de discuter de l'existence de Dieu passe à côté de ce que c'est que Dieu. Et du coup, là, on est dans une, du coup, vous voyez comme on est dans une approche différente de celle de Yann, puisque ça veut dire que la croyance en Dieu, au fond, c'est pas du tout une croyance en l'existence de quelque chose comme je crois en l'existence du monde, en votre existence, encore une fois, l'existence des exoplanètes. C'est quelque chose de tout à fait différent. Et le fait même de parler de l'existence de Dieu, c'est déjà nous interroger, nous, sur ce que nous appelons exister, croire, etc.
Donc en fait, c'est comme si on ne pouvait que réfléchir sur les discours que nous avons eus, nos débats à propos de Dieu, plutôt que sur Dieu lui-même.
Oui, c'est-à-dire que la tradition théologique, en particulier celle-ci, nous oblige, non pas nous empêche de nous mettre en position, nous, de surplomb par rapport à Dieu et de discuter de la question de savoir s'il existe ou pas, mais elle nous oblige à faire la démarche inverse, à partir de ce concept inouï, puisque voilà, c'est un concept tel qu'on ne peut pas le penser comme non existant, et d'essayer de tirer les conséquences pour nous. Qu'est-ce que ça veut dire sur ce qu'on appelle l'existence, sur ce qu'on appelle croire en l'existence de quelque chose, etc. Vous voyez, c'est la démarche inverse. C'est non pas partir d'une conception de la rationalité pour essayer de penser Dieu à partir de là, mais à partir de la spécificité de ce qu'est Dieu, revenir sur nos propres modes de raisonnement, nos propres modes de croyance.
Jan Schmitt.
Oui, et là où il y a une différence, c'est effectivement que la situation initiale, on ne la voit pas pareil. C'est-à-dire que moi, j'imagine que la diversité des croyances me donne un effet de contingence et de scepticisme qui me met un peu hors des croyances. Je ne vois pas m'inscrire dans une tradition pour faire de la philosophie. Et j'ai besoin de regarder les choses un peu de loin, non pas parce que je l'ai décidé par tradition philosophique, mais parce que j'ai pris le fil des discussions et des réflexions critiques qui existent déjà, mais j'ajoute une sorte de plus-value, c'est parce que c'est mon métier de travailler conceptuellement et à argumenter. Donc effectivement, je ne peux pas rentrer dans la démarche que précise Anthony, parce que je ne vois pas la situation et la manière de raisonner de la même manière. Et lui, effectivement, il a une autre analyse de la situation, de la particularité et de l'héritage. Et c'est là qu'il y a des différences de méthode importantes.
Mais alors là, on parle beaucoup effectivement de l'approche du concept de Dieu ou même de Dieu par raisonnement, par déduction très logique ou même sur qui aurait une dimension critique d'approche des discours qu'on a eu sur Dieu dans l'histoire de la philosophie. Comment vous en avez parlé? Vous avez parlé de la revue Théorème et effectivement de cette impossibilité de mettre à l'écart la contingence, la situation historique donnée dans laquelle on énonce une expérience de croyance. Alors à partir de ce moment-là, comment on articule, comment on passe du rationnel au raisonnable, parce que ce discours sur la religion aujourd'hui ne peut pas être écarté d'une dimension d'un ancrage politique et social dans lequel il s'inscrit. Je pense notamment à la laïcité, mais je pense aussi au fait que de quel Dieu parlez-vous quand vous parlez de l'expérience mystique? Est-ce que vous parlez uniquement des religions monothéistes? Donc sur ce point, Anthony Feneuil.
Alors, je ne vais pas dire grand-chose.
Bon.
Je pense que non, mais parce que au fond, ce sont des questions qui sont à la marge de la. Elles sont à la fois, elles nous interrogent évidemment comme philosophes, mais elles sont toujours aussi à la marge et en plus, dès que lors qu'on parle de ces questions, on est toujours pris dans des débats qui sont déjà posés par d'autres et qui sont souvent mal posés et on aurait envie de les reposer.
Ben c'est justement l'intérêt de la philosophie et même peut-être des discours que vous portez déjà sur d'autres discours.
Tout à fait, et c'est aussi l'enjeu, vous l'avez rappelé, un des enjeux de la revue qu'on a fondée, qui est d'abord un enjeu de connaissance. Parce que pour parler de la question religieuse, la première chose qui devrait être évidente, mais qui de toute évidence ne l'est pas, c'est quand on connaît l'état du débat public, la première chose, ce serait d'abord de prendre connaissance de ce que sont effectivement les traditions religieuses, là pour le coup, dans leur diversité, et d'en prendre précisément connaissance. Et c'est un des objectifs de la revue, de permettre de le faire. Et on pourrait dire, ça c'est un premier aspect, mais c'est déjà un aspect important de la réponse à donner à cette question, en gros, de la religion dans le politique, ou de ce que c'est que la religion pour nous aujourd'hui. La première réponse qu'on devrait donner, c'est d'abord une réponse de connaissance, de curiosité même. Il faudrait qu'on réapprenne à être curieux de ces choses qui, effectivement, comme on l'a entendu au début, peuvent sembler bizarres, peuvent sembler étranges, mais comme dit William James, c'est pas parce que il faut pas avoir peur de la vie, c'est pas parce que les choses semblent étranges a priori qu'on doit les mettre de côté et les considérer comme pathologiques. Peut-être que dans cette étrangeté, peut-être que dans les comportements bizarres de ceux qu'on comprend pas, il y a quelque chose qui est tout aussi rationnel, c'est une banalité anthropologique que je raconte, mais c'est ethnologique, disons, c'est l'idée du décentrement. Dans ces comportements qui nous paraissent bizarres, dans ces croyances qui nous paraissent irrationnelles, il y a peut-être du rationnel qu'il faut aller chercher, mais pour aller le chercher, il faut d'abord prendre la peine de passer par la connaissance de ces bizarreries.
Passer d'abord par une étape peut-être de dégager des enjeux métaphysiques, de définition, de catégorie.
Alors avant même tout ça, essayez simplement de connaître empiriquement, d'aller voir ce qui se passe, de lire les choses qui concernent le religieux, etc.
Jan Schmitt.
Oui, La question sociale et politique, alors quand on met la pluralité ou la diversité en avant, comme j'essaye de le faire, ça devient tout de suite une question aussi bien raison de croire ou pas, mais qu'est-ce qu'on fait dans une société avec des gens qui croient pas, des gens qui croient des choses différentes et qui croient même, qui se disent d'une même religion mais qui pensent des choses très différentes, etc. Qu'est-ce qu'on fait avec toute cette diversité? Et là, il y a un problème qu'on a moins quand on fait la métaphysique, comme j'en parlais, qui est que en fait, les problèmes, les notions sont déjà traitées, et elles sont traitées selon un spectre d'honnêteté intellectuelle et de compétences qui est très variable. On va avoir le discours sur la laïcité, bon, maintenant il est instrumentalisé par l'extrême droite et ceux qui sont fascinés par elle. Et le problème, c'est que si on se met nous aussi à travailler, il ne s'agit pas de foncer tête baissée dans le débat. Parce qu'on va se faire piéger, parce qu'on ne va pas maîtriser la manière de poser les questions, on n'est pas là pour faire de la rhétorique, etc. Donc il faut qu'on ait un travail, comme dit Anthony, de connaissance. Mais le problème, c'est que ce travail de connaissance, il faut qu'il soit utile, et il va falloir aller un peu au charbon. Alors on est enseignant, on a nos responsabilités localisées, il ne s'agit pas de se lancer sur la scène médiatique, mais effectivement, c'est la responsabilité des philosophes des religions, c'est pas simplement de discuter le pour et le contre et d'essayer d'y voir plus clair, mais c'est aussi de prendre à bras le corps des problèmes qui sont très très mal posés, qui sont même malsains d'ailleurs, certaines fois pour la manière de le poser. Alors en France, on a une tradition d'historiens, de sociologues et aussi de philosophes qui ont beaucoup travaillé sur la laïcité. Mais la question, c'est peut-être qu'il y a du travail encore à faire parce que la société a un peu changé et il ne suffit pas de réactiver des idéaux, des lumières ou de réactiver des lectures qui existent déjà. Il ne s'agit pas d'être contre les lumières, j'ai jamais sous-entendu ça.
Non, mais disons de les compléter peut-être mais avec d'autres.
Voilà, notre situation est un peu différente et puis on a du recul historique, on a les travaux des sciences sociales qui nous servent et il y a des choses en train de se faire. Et c'est sûrement dans cette perspective que on peut travailler, notamment par exemple utiliser la philosophie analytique quand elle est politique et quand elle est de philosophie sociale, mais aussi les théories critiques d'origine allemande plutôt et les sciences sociales. Et là, il y a vraiment on parlait de savoir demain. Voilà, je pense qu'il y a quelque chose à faire vraiment, parce que il faut pas qu'on se laisse enfermer dans ce qui existe déjà dans les traditions franco-françaises. Et en même temps, il s'agit pas d'oublier l'héritage et il faut avancer. Oui. There are some things I may not know.
Oh.
Eh bien, un grand merci à vous deux, donc Yann Schmitt. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Lettres de Dieu, Ontologie du théisme, c'est aux éditions de l'ITAC. Qu'est-ce qu'un Dieu, aux éditions Vrin. Et puis merci à vous aussi, Anthony Feneuil. Et on peut lire de vous Le Serpent d'Aaron sur l'expérience religieuse chez Karl Barth et Henri Bergson aux éditions L'Âge d'Homme. Et puis aussi Bergson, Mystique et Philosophie, c'est au PUF. Et puis bien sûr, rappelez que vous travaillez tous les deux pour la revue Théorème que l'on peut trouver où, en ligne ou...
Sur Internet, ouais, entièrement en libre accès.
Eh bien, on mettra le lien sur le site de l'émission. Et puisqu'il s'agit donc d'une émission, d'une semaine, pardon, demain, Les Savoirs sur France Culture, eh bien chaque jour, l'équipe des Nouveaux Chemins est allée à la rencontre de jeunes doctorants de l'ENS pour leur demander en quoi leur thèse pouvait éclairer le monde, rien que ça. Et aujourd'hui, c'est Agnès Griveaux qui fait une thèse sur le rapport entre psychanalyse et critique de la raison chez Adorno et Horkheimer, deux penseurs allemands de la première moitié du XXe siècle, rattachés à l'école de Francfort, qui relève ce défi en 2 minutes et quelques au micro de Lucie Tardy.
Une thèse sur quoi ?
Sur rien.
Ah bah c'est bien, ça prend pas beaucoup de temps ça.
Je fais une thèse sur le rapport entre psychanalyse et critique de la raison chez Adorno et Horkheimer, qui sont deux penseurs allemands de la première moitié du XXe siècle, rattachés à ce qu'on appelle École de Francfort. Alors mon problème de départ, qui a motivé justement ce travail de thèse, touche à un phénomène particulier du monde contemporain, ce qu'on a qualifié à la suite de Weber de rationalisation des sociétés. Très schématiquement, ça consiste à l'époque moderne dans le fait que la plupart des sphères de l'existence sont réorganisées d'après des critères rationnels spécifiques et que certaines procédures rationnelles, notamment économiques, tendent progressivement à prédominer sur les autres formes de rationalité. Et donc ma question de départ était, au vu des conséquences actuelles apparemment irrationnelles impliquées par le devenir hégémonique de la rationalité économique libérale, de savoir si on pouvait critiquer efficacement ce phénomène de rationalisation. Et mon intuition de départ était qu'il ne suffisait pas de dire que cette raison était irrationnelle. Donc mon travail de thèse a justement consisté d'abord à rechercher des outils théoriques pour comprendre le statut de cette rationalité et la critiquer. Et c'est chez Adorno et Horkheimer que je les trouve, ces outils, et qu'ils me semblent les plus convaincants. Ce qui m'intéresse en effet beaucoup chez ces penseurs, c'est qu'ils soutiennent qu'il faut absolument spécifier et critiquer la logique de cette déraison, de la raison, dans nos sociétés modernes, mais que pour eux, on ne peut le faire que sous condition de faire appel à la conceptualité psychanalytique, notamment freudienne. C'est-à-dire qu'on ne comprend cette rationalité qu'à condition de voir qu'une logique inconsciente, affective et pulsionnelle la travaille et explique précisément sa déraison propre. Donc ma thèse entend montrer qu'Adorno et Horkheimer utilisent la psychanalyse pour développer cette nouvelle forme de critique de la raison et que cet usage de la psychanalyse peut être intéressant pour nous aujourd'hui parce qu'il permet justement de saisir précisément la logique de cette déraison. Et alors justement, quelle est la logique de cette déraison pour Adorno et Horkheimer ? Alors ils considèrent que cette rationalité qu'ils nomment Aufklärung se laisse penser d'abord d'après la fonction précise qu'on lui assigne, à savoir libérer les hommes de la peur et les rendre souverains. Et cette fonction première, qui concerne notamment le rapport de l'homme à la nature, est aussi bien le point de départ du devenir irrationnel de cette rationalité, et on voit bien pourquoi, de façon constitutive, cette rationalité, elle est corrélée à des affects, donc la peur, et elle va donc en subir de façon inconsciente les déterminations et les transformations, jusqu'à sombrer dans la déraison, requalifiée grâce à la psychanalyse en délire.
Et merci beaucoup Lucie, et j'en profite puisque cela n'est pas sans rapport pour annoncer le colloque international à l'occasion des 50 ans de la dialectique négative d'Adorno, organisé par l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, qui aura lieu les 2 et 3 juin, donc dès demain et vendredi. Toutes les infos sont sur le site www.univ-paris1.fr. Et quant à nous, on se retrouve demain pour la suite de cette semaine spéciale sur France Culture, et demain, nous nous demanderons avec Ouria Bentouami s'il faut subir son identité. Et quant à vous, si vous souhaitez réécouter en ligne ou télécharger cette émission, eh bien rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Nouveaux Chemins. Et puis suivez-nous aussi sur Facebook et Twitter.